Et bonsoir Isabelle.
Oui, bonjour Sabine, je suis enchantée de vous avoir au téléphone.
Je suis ravie de votre connaissance aussi.
Oui, j'ai 54 ans, j'habite dans le 49. Et voilà, j'ai un parcours un petit peu atypique. Alors, comment dire, on va faire vite. Hein. J'ai eu un papa de 7 à 7 ans qui a voulu nous tuer avec ma maman.
Oula.
Il a essayé de m'étrangler.
Il était malade ou il buvait?
Oui, non, il était malade. Il était, à l'époque, on disait manico-dépressif. Mais je pense que ça allait au-delà de ça, parce qu'il était armé.
Ah oui.
Et voilà. Voilà, il était armé. Et donc, nous, on partait en pleine nuit, à des minuit, 1h du matin, en faisant des... Comment dire, des... Ma mère me dit, on faisait le tour du pâté de maison. Bah oui, mais le tour de pâté de maison, ça durait 2 heures. Voilà.
Quelle angoisse pour un enfant, quelle angoisse pour ça devait être pour vous, petite.
Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous enfermait des fois et il nous oubliait. Et quand ma mère arrivait et nous donnait une orange, elle se faisait tabasser. Donc, moi, j'ai eu droit au jet d'eau à l'eau froide parce que je faisais des crises d'asthme, que le psy m'a expliqué que c'était de l'angoisse.
Oui.
Voilà, j'ai eu beaucoup de mal au niveau de la scolarité parce que j'étais complètement fermée. Je suis dyslexique, je suis en plus une gauchère contrariée et je n'arrive pas à me faire d'amis, je n'ai jamais réussi à m'en faire.
Mais oui, vous êtes en mode panique depuis le début, quoi.
Oui, après, à 13 ans et demi, j'ai eu une agression sexuelle et je n'ai pas pu en parler à ma maman. C'est un jour qui, au bout de 6 mois, m'a dit « Mais tu vomis, ma fille, c'est pas normal. » Je suis descendue à 35 kilos, je suis ta. Et je commence tout juste à 54 ans à remonter la pente, mais vraiment bien parce que je suis à plus de 50 kilos. Et malgré tout ça, je recherche un père de substitution. Mais ça, je suis suffisamment fine parce que j'ai fait une analyse. Hein, je vois mon psy depuis l'âge de 20 ans.
Et vous savez comment vous fonctionnez, en tout cas, ça s'entend.
Voilà, il m'a dit que je fonctionne bien et que vu tout ce que j'avais vécu avec mon père et l'agression sexuelle, et j'ai aussi un pervers narcissique qui, hélas, m'a violée pendant un an. Enfin, bref, j'ai eu la totale, j'ai réussi toujours à remonter. Mmh. Et puis là, j'ai eu mon meilleur ami qui est décédé, qui était un jeune homme bipolaire. Alors moi, je suis bipolaire, mais dépressive chronique. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, j'ai tendance à être dans la dépression.
Vous êtes voilà. Plus en bas quand vous...
Voilà, quand ça ne va pas. Donc, j'avais tendance à aller un petit peu vers l'alcool, mais mon psy me disait « Vous n'êtes pas un alcoolique, alors faudrait savoir. » Donc, j'ai fait l'AA. L'AA, bon...
Alcoolique anonyme.
Voilà, exactement, pendant un an et demi. Ça m'a servi pour beaucoup plus tard, pour apprendre, quand j'avais des idées suicidaires, de repousser de 1/4 d'heure, 10 minutes, 20 minutes, vous voyez. Voilà, scarification.
Calmer le cerveau, d'abord.
Voilà, exactement, comme vous dites, calmer le cerveau. Et puis là, j'ai eu un des problèmes utérins de saignement. Je ne me suis pas plus inquiétée que ça. Je trouvais que j'étais passée par des choses tellement dures et que mon psy m'avait dit « Vous avez de la chance d'être pas tombée dans la drogue. » La haute délinquance, il me dit « Vous êtes plutôt bien sortie. » Bon, d'accord, ok, ça me fait une belle jambe. Donc, j'étais mise en invalidité très tardivement. Et là, je viens d'apprendre que j'ai un kyste au sein. Et là, je suis complètement...
Vous avez peur?
Ah, c'est plus que ça, quoi. Ouais. Mon meilleur ami qui est décédé, qui était en fauteuil, je lui dis, je ne me foutrai jamais en l'air parce que quand je l'ai vu dans l'état où il était, je me suis occupée de lui, je lui dis, je ne le ferai pas. Mais maintenant que je me dis, s'il doit y arriver un truc comme ça, je crois que je serai capable de le faire. Tellement je suis... Et quand je dis que je n'ai pas d'amis, j'ai téléphoné à SOS Amitié. Quand ils me disent, mais vous avez des amis, je dis, non, mais je crois que les gens ne voient pas. Quand je dis que je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amis. Et le processus d'une personne qui est bipolaire et comment dire, dépressive chronique, elle a tendance à s'enfermer.
C'est l'enfermement, oui, c'est ce que j'allais vous dire. La seule issue pour vous, c'est la seule sécurité, en tout cas, c'est ce que votre cerveau pense. C'est l'isolement, c'est de vous replier sur vous-même.
Voilà, exactement. Ouais. Je suis quelqu'un d'hyper sociable, je suis une littéraire, mais confirmée. Voilà. Mais ça ne change rien. Et puis quand vous dites aux gens que vous êtes en invalidité, je vous assure que le regard, il est méprisant.
Oui, mais ça leur appartient. Laissez-leur ce qui leur appartient de négatif, franchement. N'accordez pas d'importance à ce qui n'en a pas.
Donc, je suis célibataire, j'ai vécu donc 3 ans avec un pervers narcissique, et à la fin, je lui dis, si tu continues à violer, ben moi, c'est simple, je te tue, et puis je me présente à la police, voilà, parce que j'avais plus rien à perdre. Et ensuite, j'ai vécu avec un homme pendant 10 ans.
Mais attendez, vous allez un peu vite, là. Comment ça s'est terminé avec ce pervers, alors, quand vous l'avez
dit? Je suis partie parce que j'ai rencontré un psy à Orange qui m'a dit, il faut absolument partir, vous allez laisser votre peau.
Ben oui, c'est ça.
Mais j'étais en contrat de travail avec lui, donc c'était très, très, très dur.
Comment vous avez
fait? Je ne sais pas comment j'ai fait. Sincèrement, je ne sais pas. Je me rappelle, j'ai appelé ma mère me disait que je l'ai appelée jusqu'à 3-4 heures du matin. Et elle ne savait pas du tout de ce qui se passait, quoi. Elle voyait que ma morphologie changeait. Je n'étais pas comme d'habitude, mais je ne pouvais pas lui dire que... vous savez, les pervers narcissiques, c'est des gens qui au début vous disent « Oh, vous êtes bien », puis après ils vous disent « Mais t'es moche, mais t'es qu'une merde. »
Ben c'est le but, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est souffler le chaud et le froid. Et c'est... Les pervers narcissiques ne se sentent bien que quand l'autre se sent mal.
Voilà, et en plus je bossais bien dans sa boutique. Voilà.
C'était facile pour lui, vous avez sous la main.
Exactement, ouais. Oui. Et d'un certain temps, je lui dis « Monsieur Blumpant », je lui dis « Là, je pars ».
Vous avez réussi à partir quand même, c'est une sacrée victoire.
Oui, j'ai réussi à partir. Mais ça a été un échec pour moi. J'ai eu l'impression de vivre un échec. C'est-à-dire que je me suis sentie coupable, vous voyez. Je me suis sentie littéralement coupable.
C'est son travail de sape qui a fonctionné, parce que ce n'est pas le cas, vous n'êtes coupable de rien, c'est lui le coupable. Ce n'est pas vous, c'est la victime, vous.
Bah oui,
je
sais, mais ce n'est pas évident. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré un monsieur. Et alors, mon psy me dit, vous avez le don de les attirer. Alors, je dis, je crois que je répète ce que mon père m'a fait. Mon père ne m'a pas violée, mais il me tabassait tous les jours. Voilà, une gifle tous les jours, privée de manger, la douche, enfermée, oubliée à l'école.
C'est
une merde, je veux que tu meures. Moi, il m'a toujours dit, il faut que tu meures avant moi. Donc, vous voyez, c'est très, très dur.
Oui, mais en même temps, vous avez compris aujourd'hui que ce n'est pas lui qui parlait, c'est la partie malade.
Oui, ce n'est pas lui.
C'est la maladie qui parle. Quand on atteint des extrêmes comme ça, ça n'a plus aucun sens.
C'est délirant. J'en ai bien conscience, quoi. Mais ça reste mon père.
Oui, je sais bien.
Et mon père géniteur, quoi qu'il advienne, quoi. Oui. Voilà. Et puis, j'ai rencontré un monsieur avec qui j'ai vécu 10 ans, avec des enfants magnifiques, où je me suis vraiment épanouie. Et cet homme a attendu, alors qu'il savait que j'étais anorexique, Il a attendu plus de 4 ans pour me dire que c'était un homosexuel refoulé, voilà. Mmh. Et je suis passée pour la conne de service dans la famille. Et ça m'a fait mal de chien. Donc depuis ce temps-là, j'ai arrêté d'avoir des relations, tout simplement.
Pourquoi la conne de service? Je vois pas le lien.
Parce que il avait des parents qui étaient très bourgeois, très et il disait oh mais Isabelle, elle est en invalidité, donc elle a des problèmes. Et moi, il me faisait cacher ses valises où il s'habillait en femme. J'en avais parlé avec mon psy. Et il se mettait des godes, excusez-moi, dans le derrière, des choses comme ça. Il m'a fait pratiquer des pratiques qui n'étaient pas les miennes, qui m'ont carrément cassée. Donc à la fin, je lui dis, je te quitte. Au bout de 10 ans, je dis, je te quitte parce que là, moi, je ne vais pas m'en sortir. Je dis, maintenant, tu assumes ton homosexualité, ce n'est pas grave, mais tu l'assumes. Oui. Et comme il venait d'un milieu très chrétien, il ne l'a pas assumé. Voilà. Et moi, je suis partie. Je suis partie parce que je lui dis, on ne va pas les deux dans le mur.
Ce que j'entends quand même, c'est que vous avez une sacrée force de résilience parce qu'à chaque fois, vous avez réussi à partir. Taper du pied dans le fond dans le fond de la piscine pour remonter à la surface. Quoi. Mais oui, quand même.
Et vous savez, cet homme-là, je ne lui ai jamais dit ce qui m'était arrivé parce que ce n'est pas facile à dire à quelqu'un tout ce qu'on a subi. Quoi. Et c'est dur parce que je crois que si je rencontre quelqu'un d'autre, j'ose plus dire tout ce qui m'est arrivé parce que j'ai peur d'avoir une
étiquette.
Voilà, exactement, une étiquette. Voilà.
Il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a un peu choquée. Vous me dites que votre psy vous a dit décidément vous les attirez.
Oui.
C'est un peu brutal.
Elle m'a dit...
Enfin, je sais pas, son rôle, c'est plutôt de vous apprendre à ne plus les attirer plutôt que de vous dire ça, non?
Bah oui. Elle m'a dit, vous avez... je sais pas comment vous faites, vous les attirez. Bah oui. Bon, je les attire.
Et une fois qu'on a dit ça, son job, c'est quoi, justement?
Je sais pas. Je lui ai dit j'attire parce que j'ai dit je fais ce que mon père m'a dit, que je devais décéder avant lui. Ça, il me l'a dit à 35 ans, il a fait une thèse avec moi et il m'a carrément dit je veux que tu meurs avant moi. C'est toi qui dois mourir avant moi.
Et du coup, il y a une partie de vous qui souhaite disparaître aussi. C'est souvent oui, ça, l'anorexie,
c'est quand très, on très, très dur. Voilà. Je ne prends pas, pour une bipolaire, je ne prends pas des pacotes, je ne prends rien, je prends juste de la fluoxétine, un comprimé par jour. Et pourquoi, pas d'addiction.
Pourquoi vous ne prenez pas de médicaments contre la bipolarité?
Parce que j'en ai pris et je me suis aperçue que ça m'endormait et que ça ne me faisait strictement rien. Et que c'était juste quelque chose qui... je me suis dit, je sais que je peux m'en sortir par moi-même. Je pense que j'ai suffisamment de force. J'ai pardonné à mon père, vous savez. Hein. Je lui ai pardonné.
Comment vous avez fait pour lui pardonner?
Je l'ai fait très tôt. À 35 ans, je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit, je te pardonne. Seulement, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça sur tes enfants. Parce que moi, je n'ai pas d'enfants. Je n'aurais pas voulu faire la même chose. Et là, la fête des pères, j'ai envoyé dans une EHPAD. Je suis allée le voir. Il est juste revenu ce qu'il était avant, un petit rang. Et j'ai envoyé un billet de 10 euros. Voilà, je lui fais toi plaisir. Mais il n'a pas mon numéro de téléphone. Je l'appelle de temps en temps. Et il est content de me voir au téléphone. Mais je sais que c'est une bombe à retardement, mon père. Voilà.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il peut être gentil et tout d'un coup, il peut vous lancer une saloperie, quoi.
Ça veut dire que vous pensez qu'aujourd'hui, il a encore un pouvoir de nuisance sur vous?
Oui, je pense, parce que quand je l'ai vu de visu, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que je l'ai qu'au téléphone une fois par an, même pas.
Et quand vous lui avez dit que vous lui pardonniez, donc vous aviez 35 ans, ça fait presque 20 ans maintenant, qu'est-ce qu'il...
Il était content.
Comment il a réagi?
Il m'a pris dans ses bras, ouais. Il m'a dit « je t'aime ». Et une semaine après, il a appelé mon parrain et ma marraine et il a dit « ma fille est folle ». Elle dit qu'elle m'aime, elle est folle.
Il est malade, quoi. Il est vraiment très malade.
Oui, je sais.
Malheureusement, vous espérez un comportement normal de quelqu'un qui ne l'est plus depuis longtemps.
Oui, je sais. C'est un gros deuil.
Et oui.
Et donc, je me trompe avec les hommes avec qui je vais parce que les gens qui pourraient être bien, je les écarte parce que je n'ai vécu que des choses négatives.
Vous restez, donc, je recrée le schéma. Voilà, vous restez en thérapie.
Voilà, j'en ai conscience. Hein. Le pire, c'est que j'en ai conscience.
Bah, depuis le temps, vous êtes en thérapie. Oui, j'espère qu'on vous a fait travailler là-dessus. Prendre conscience
oui,
de ça, c'est important.
Oui. Alors, voilà.
Paradoxalement, c'est ce qu'on appelle sa zone de confort, qui est pourtant très inconfortable.
Oui,
mais
tout
au moins,
à fait.
Là, vous avez les codes dans cette zone-là.
Ouais, exactement. Je sais que je ne suis pas bien, puisqu'on va me lancer à la figure. Et donc, je me dis, ça ne fait que confirmer ce que mon père me dit de 0 à 7 ans et même après, quoi. Et j'ai beau essayer de me débarrasser de ça. J'ai rencontré une personne qui m'a dit, mais tu ne te rends pas compte comment tu es forte avec tout ce que tu as...
Mais c'est vrai.
Tout ce que tu as encaissé. Mais après ça, quand j'ai dit ça à cette personne, elle est partie, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai dû lui faire peur. Faire peur parce que, quand vous avez eu une agression sexuelle... un compagnon qui vous viole, un autre qui est un homosexuel refoulé, je lui dis d'avoir une sexologue, c'est pas grave, ça, c'est ta sexualité, mais si tu me fais du mal, tu vas faire du mal aux autres, ça sert strictement à rien, quoi.
Non, puis c'est encore quelqu'un qui ne vous a pas respecté, surtout, c'est ça le schéma répétitif.
Oui, c'est une personne, j'ai rencontré une psychologue qui m'a dit la même chose.
Mais
qui
oui.
m'a dit, vous êtes dans le déni, vous n'avez pas accepté, cette personne ne vous a pas pris en considération.
C'est la partie, la partie de vous qui pense qu'elle n'a pas de valeur et qu'effectivement, il vaut mieux qu'elle disparaisse.
Oui.
Mais ça serait bien que vous appreniez, Isabelle, à écouter l'autre partie de vous, celle qui est forte, qui est grande, qui est adulte et qui n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire et comment elle doit être.
Oui. Mais je trouve ça un peu triste à 54 ans, quoi. Voilà. Quoi.
Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous trouvez ça triste à 54 ans?
Parce que j'espérais finir mes jours quelqu'un qui arrivera à me comprendre, mais je crois que c'est très très dur, le regard des gens est très 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 dur.
Alors je suis pas tout à fait d'accord, je pense que c'est votre regard sur vous-même qui est très dur.
Oui, peut-être. J'étais très dure avec moi-même.
Et voilà, c'est ce que j'entends.
J'étais très très dure pour pas m'enfoncer, quoi.
Et donc, bien sûr, on a besoin de trouver des ressources là où on peut. Mais quelquefois, ce ne sont pas forcément les bonnes ressources, en tout cas pas sur le long terme. Et ce regard dur avec vous-même fait qu'en miroir, vous ne percevez que les gens qui ont ce même regard sur vous. Vous ne voyez même pas les autres, probablement.
Non, 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 c'est ce que mon psy m'a dit aussi.
Ah oui.
Il m'a dit, vous ne voyez pas, parce que j'ai fait des interventions littéraires, il m'a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous n'avez, que j'ai même pas, j'ai un bac de substitution, mais il m'a dit, vous avez des connaissances littéraires, philosophiques, il m'a dit, mais c'est impressionnant. Si je ne l'ai pas fait exprès, je dis, docteur, c'est ma façon à moi de vivre autre chose, voilà, où je ne suis pas cassée. Et dans les livres que je lis, c'est souvent des choses, des gens qui sont fracassés, mais qui montent toujours une marche, qui n'en descendent jamais. Ça, c'est mon béaba. Il faut que le personnage s'en sorte d'une manière ou d'une autre. Mmh. Même si c'est qu'une marche, mais c'est qu'une marche.
Bien sûr.
Voilà. Et c'est ça qui me... Alors, des gens me disent, oh, mais c'est des romans, c'est pas de l'art. Non, 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 c'est la vie. Vous montez une marche, après, vous pourrez en monter une deuxième. Mais c'est la première qui coûte le plus.
Mais ça, vous l'avez compris et vous l'avez déjà monté, cette première marche.
Oui.
Vous êtes debout, vous êtes là, vous me parlez ce soir. Mm. Par contre, j'entends que vous avez du mal à recevoir les compliments. C'est difficile pour vous, hein.
Oui, très dur. Très, très dur.
Là aussi,
j'ai jamais eu de compliments. Non, j'ai jamais eu de compliments.
Mais vous avez dit une chose très importante, vous avez dit, pour tenir debout, il a fallu que je sois dure avec moi-même. C'est-à-dire que pour trouver
dur.
De la force, vous avez transformé la force en dureté.
Oui.
On peut être fort sans être dur.
Ben, va falloir que j'apprenne ça parce que je ne sais pas comment.
C'est la marche d'après, c'est-à-dire arriver à être bienveillant avec soi-même, fort contre
d'accord.
les autres. Mais être fort, ce n'est pas être en guerre contre soi-même.
D'accord.
Vous voyez. Et ça, d'accord. je pense que ça sera une marche extrêmement intéressante au niveau de l'apprentissage de qui vous êtes profondément, dans toutes
d'accord.
vos facettes, et pas uniquement dans la facette de celle qui souffre.
D'accord.
Parce qu'il y a aussi en vous, et on l'entend, cette femme qui est résiliente, qui effectivement, que vous disent vos amis, vous avez surmonté beaucoup de choses.
Oui, j'ai mon meilleur ami, c'est mon petit frère de cœur. Vous voyez, il était en fauteuil, je l'ai lavé, je lui donnais à manger, je colle quand
vous
les
vous rendez compte combien de, COVID, gens, combien de gens auraient fait ça?
Ben moi, ça m'a paru complètement normal, je vais vous dire. Je l'ai vu quelqu'un de ma famille, voilà. Et quand il est décédé, j'ai dit, il aime Madonna, on va lui mettre Madonna. J'ai réussi à faire venir un prêtre parce que les personnes à côté n'étaient pas des gens croyants. Et lui était croyant.
Mm-hmm.
Et j'ai dit, non, il faut qu'il parte, il faut qu'il y ait un prêtre. J'ai réussi à ce qu'il ait une médaille sans que personne le voie. Parce que j'ai dit, il est croyant, il allait à Lourdes tous les ans. Et j'ai dit, c'est une force, il a besoin de partir avec ça. Voilà.
Vous avez respecté qui il était.
Oui, exactement. Je pense que c'est très important.
Et vous ne pensez pas que maintenant qu'il n'est plus là, justement, vous pourriez vivre pour deux et vivre pour lui aussi?
C'est ce que j'essaye.
Notre temps sur cette terre est compté pour tout le monde. On ne sait pas combien
de
temps ça va durer.
Vous savez, je n'ai pas peur de la mort parce que j'ai eu la chance de connaître mon grand-père maternel qui est décédé à la campagne. Donc, on faisait des veillées funèbres.
Mmh, des vrais deuils donc, à l'époque.
Oui, voilà.
Un vrai
exactement,
temps dédié au deuil.
Voilà. Et donc, il n'y avait pas de... C'était pas quelque chose de caché. Et on est dans une société où on cache la mort, où la jeunesse est toute puissante. Et comme je dis, mais est-ce que vous avez conscience que quand une maman donne vie, elle donne mort à son enfant?
Et oui, c'est ce que je dis
ça
souvent, c'est un package, on ne peut pas avoir la vie sans la mort.
Voilà, exactement, c'est la logique de la vie, donc il faut le savoir, quoi.
Mais on le sait, mais comme vous dites, on est dans une société qui est dans le déni complet.
Oui,
on ne montre pas les vieux, on ne montre pas les malades, on ne montre pas la mort, on n'en parle pas. Et quand ça nous frappe, parce que ça nous frappe forcément tous, on est anéanti.
Oui. Oui, exactement. Et
ce temps de deuil dont vous parlez est extrêmement important. Vous vous rendez compte quel âge vous aviez quand ce grand-père est parti?
Oh, j'avais même pas 7 ans.
Et vous en souvenez encore?
Mais
vous vous rendez compte?
Mais j'ai veillé, ma grand-mère m'a dit t'es pas obligée. J'ai dit non, je vais avec mon grand-père, je l'ai trouvé bien. Il était décontracté, je sais pas. J'ai parlé avec lui. Et vous voyez, cet ami, celui qui est décédé, il a un social, peu importe. Hein. Son compagnon est venu. Il était étonné que je lui parle. Il me dit, je sais pas. Il dit, c'est toujours comme ça. Je dis, non, je suis moi. Et je lui parle. Et je lui ai fait un bisou sur le front. On a rigolé. Et voilà, je lui dis, il passe une étape au-dessus. Je vais aller au-dessus. Mais je dis, là, on peut lui parler. On peut lui dire tout ce qu'on a envie.
Mmh.
Et Et j'ai accompagné comme j'ai pu, quoi. Voilà.
Mais vous l'avez, cette extraordinaire énergie, Isabelle. Vous l'avez quelque part en vous, hein, évidemment.
D'accord.
C'est juste que pour l'instant, il y a encore une partie de vous qui... L'image que j'ai, c'est la petite fille qui est encore en colère.
Oui, oui, je crois, oui.
Et c'est elle qui vous empêche d'avancer pour l'instant. Mais vous avez quand même fait un sacré chemin, de ce que j'entends là. C'est une sacrée...
Et vous savez, excusez-moi de vous interrompre.
Oui, j'allais vous faire un compliment, c'est normal que vous mettez en pied. Ça va pas.
C'est excellent. Ah, vous êtes drôle. D'accord, alors allez-y pour le compliment.
Non, j'ai plus envie maintenant.
Ah bon? Alors d'accord. C'est juste que quand les gens me parlent de la souffrance... et qui dit « Ah, mais un tel n'a pas souffert ceci, cela. » Et moi, je leur dis « Écoutez, vous mettez 10 personnes en face, hein, à peu près. Hein. Vous leur donnez une gifle, sans dire pourquoi. Oui. Imagine, vous allez voir celui qui va pleurer, celui qui va dire pourquoi, celui qui va vous la rendre.
Vous la rendre, oui, c'est ça aussi.
Celui qui va avoir de la colère. Et puis, dernièrement, j'ai un monsieur qui m'a dit « Mais on peut esquiver. » Et ça m'a perlé. Parler, parce que moi, je n'ai jamais esquivé les coups. Je les prenais en pleine figure.
Mais oui, mais on ne vous a pas appris à esquiver non plus. C'est facile.
Non, on ne m'a pas appris. Et voilà. Non, voilà.
C'est pas inné. Donc, hein, y a pour pas un enfant.
Oui. Mais les gens ne se rendent pas compte. De 0 à 7 ans, vous savez, on vous formate. Hein.
Ah, complètement. C'est là où tout se construit.
Ah, c'est un truc de dingue. Hein. Les gens disent, ah, mais maintenant, t'as... Non. Si... J'ai une collègue de travail, j'avais une trentaine d'années passées, qui m'a dit, mais Isabelle, c'est super agréable de parler, de travailler avec toi, t'as le sourire, t'es prêt à faire ceci, cela, même si c'est pas dans ta branche, bon. Elle me dit, tu n'as pas de projet. Et je lui dis, et après je suis rentrée, je dis, bah oui, j'ai pas de projet, parce que comme j'ai eu un père qui a toujours voulu me tuer, comment voulez-vous vous projeter dans une semaine, dans un mois, dans quelque chose? On peut pas.
Bah, il arrive un moment où on peut faire un reset avec le passé quand même. Hein. On peut lui tourner le dos et décider de regarder devant.
D'accord.
D'enlever ce pouvoir-là, justement, à votre père, et de reprendre votre vie en main à vous, comme vous le souhaitez, vous reconstruire avec vos matériaux à vous.
D'accord.
Et le compliment que j'allais vous faire, c'était de vous dire, vous êtes merveilleuse, mais ouvrez les yeux pour vous en rendre compte.
Bon, bah, d'accord. Écoutez, je t'entends.
Mais oui.
Je vous remercie de m'avoir reçue sur l'antenne. Je sais que vous avez beaucoup, beaucoup de monde.
Pas ce soir, pour être honnête, c'est assez bizarre. Je sais pas ce qui se passe, si c'est le début des vacances ou si les gens sont endormis. C'est un peu dommage. C'est les deux dernières soirées du week-end. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'appels, mais bon. Vous allez me faire un compliment, peut-être.
Comment?
Vous allez me faire un compliment, peut-être.
Moi, j'adore votre émission. J'en ai même parlé à mon psy qui connaissait pas. Et je lui ai dit, écoutez, dans les yeux d'Olivier aussi. Et je lui dis, écoutez, c'est formidable, parce que j'ai remarqué que les femmes parlent d'une manière plus honnête, enfin pas plus honnête, plus ouverte, voilà, plus ouverte. Les hommes sont un petit peu plus sur la réserve, je ne sais pas si c'est lié à leur virilité ou le quoi pensent-on.
L'éducation aussi, souvent. Hein.
Voilà, l'éducation. Et vous savez, j'ai une jeune fille où j'habite, qui, alors là, je me suis foutue en pétard, hein. Qui me dit oui, au gouvernement, il n'y a que des violeurs, il n'y a que ceci, il y a cela. Alors là, je suis rentrée en colère. Je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, là, j'ai osé me permettre parce que moi, j'ai fait un travail sur moi. Je lui ai dit, on n'accuse pas les gens comme ça. Il y a la présomption d'innocence. Et d'une, quand on lance des trucs sur des réseaux sociaux, moi, j'en ai pas, des réseaux sociaux avec des pseudonymes, pour moi, ça n'a aucune valeur. Mmh. Voilà. Et j'ai dit à cette jeune fille, alors là, elle est restée quoi? Je dis, moi, j'ai subi une agression sexuelle, j'ai subi un viol, j'ai subi le viol du violeur parce que mon psy n'a pas voulu que je fasse une hypnose parce qu'il m'a dit, ça va carrément vous casser. Donc, je l'ai écouté. Alors, je lui dis ça pour, je lui dis, faut arrêter de, avec vos réseaux sociaux, croire tout et n'importe quoi. Et puis, je lui ai remis en face, je lui dis, mais est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont maltraités et qui ne vont pas porter plainte parce que c'est leur virilité qui est atteinte?
C'est vrai,
voilà.
Aussi.
Et je ne sais pas si cette jeune fille de 25 ans a bien tout compris, je l'espère. Mais en tout cas, je lui ai dit, la présomption d'innocence, pour moi, ça a du sens. Et on ne largue pas des choses comme ça sur MeToo, machin, parce que je dis ça, c'est franchement, C'est infâme.
Et comme...
Parce que les gens ne peuvent pas se défendre.
Comme beaucoup de gens qui ont subi des injustices, vous avez une valeur justice qui est très importante.
Oui.
Et vous réagissez très fort aux injustices aujourd'hui, évidemment.
Oui, et quand il y a des choses, vous voyez, comme ça, je dis, moi j'ai subi ça et ça ne m'empêchera pas de défendre les hommes, parce qu'il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même...
Il ne faut pas tout mélanger, bien sûr.
Voilà, il y a des gens très bien, il y a des hommes très bien, charmants, tout, doux, et puis il y a des femmes aussi qui sont pas... Voilà, c'est des histoires de vie, mais il ne faut pas tout confondre. Et j'avoue que cette société me fait très peur au niveau des réseaux sociaux, parce que je trouve qu'on va beaucoup trop loin. Et quand je vois au niveau des médias, c'est... Mais je m'en sens, j'ai la présomption
d'innocence.
Oui, qui met mon sang, elle a du sens, quoi. On a, vous vous rendez compte, mais du jour au lendemain, c'est la rumeur qui part et puis qui peut foutre en l'air une famille,
il y a plus de limite,
une carrière, tout. Oui, oui, c'est terrible. Je trouve ça terrible. Voilà, quoi. Maintenant qu'on n'est pas à la force de porter plainte, ça, c'est autre chose. Mais on ne le fait pas par des biais comme ça. Je trouve que ce n'est pas bien. Voilà. C'est ma conception à moi de ce que j'ai vécu et de ce que je ressens. Voilà.
Et oui, ça s'appelle la justice aussi, ça, l'équilibre.
Oui, exactement.
Il y a Tony qui envoie un petit SMS pour vous qui dit « Isabelle a une belle et douce voix, j'adore son rire, je le trouve joli et joyeux. »
Beaucoup de gens me disent que quand ils me voient, vous avez un sourire magnifique. J'ai envie de leur dire « Si vous saviez mon passé !» Mais je pense que le sourire, c'est gratuit. Et c'est tellement gratifiant de donner un sourire aux gens.
Je trouve que c'est une politesse, ce sourire. J'aime bien cette formule.
Ah, bonjour, au revoir. Moi, je vois des petits couples, des fois, je les trouve adorables, qui se tiennent le bras, tout. Vous savez, on est dans une société, les gens tombent, on ne les ramasse pas. Ça va, madame? Oui, oui. Il y en a qui rigolent, mais j'ai envie de dire, mais c'est pas drôle. Vous, un jour, vous aurez cet âge-là. Alors, la chose que je dis aussi... Ça peut paraître, mais j'ai remarqué que ça fonctionnait. Quand quelqu'un insulte, je dis, mais si c'était votre mère, si c'était votre sœur,
très juste,
si c'était votre femme, si c'était votre nièce, votre grand-mère, vous auriez ce type de comportement? Ah non, ah non. Mais alors pourquoi vous le faites avec ce type de personne? Vous voyez, on est dans une société très, je ne sais pas comment dire... Il manque de sentiments, il manque de, d'empathie.
D'humanité.
Oui, d'humanité. Oui. Beaucoup oui. Et ce n'est pas mon mode de fonctionnement pour moi.
Vous êtes remplie de sagesse, Isabelle.
Bah, j'en sais rien. Je fonctionne avec mon petit bout de chemin.
Mais je vous le souhaite long et riche, ce chemin maintenant qui est devant vous.
Bon, eh bien, écoutez, si tout s'améliore, je vous rappellerai.
Alors,
en tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances. Hein. Et merci à toute votre équipe. Et vous êtes génial.
Merci.
Génial. C'est très agréable. Et je vous le dis, ce que j'entends, ce n'est pas négatif. Parce que moi, j'entends des choses, des gens qui s'en sortent. Et je trouve ça très bien. Voilà. Parce qu'il y a toujours, des solutions, mais on ne les voit pas. Voilà.
Merci.
Je crois que c'est ça, la vie.
Merci mille fois, Isabelle.
Ben, je me permets de vous embrasser, à vous et toute votre équipe, et continuez, parce que c'est que du bonheur. Voilà.
Je vous embrasse très fort.
Merci bien.
Au revoir, Isabelle.
Au revoir.